JV le pod numéro 110. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour ce nouvel épisode de JV le pod, le podcast du magazine JV le mag. Bonjour Kevin.
Bonjour Sophie.
Bonjour Christophe.
Bonjour Sophie.
Bonjour Torgal. On a un petit invité à quatre pattes qui est à côté, peut-être... Ça s'entendra peut-être dans les micros, ou ça s'entendra peut-être quand vous nous entendrez nous extasier sur des adorables bruits qui seront faits pendant cette émission. Numéro 110 donc de JV, dis donc, numéro de la rentrée, numéro de septembre. On enregistre actuellement au mois de septembre. Vas-y.
C'était Christophe, c'était pas un chien, mais on aurait pu croire.
J'avais aucune preuve.
On est le 30 septembre, on est bon, on est encore en septembre.
Ouais.
Émission enregistrée un petit peu en retard pour cause de disponibilité de certaines personnes.
Ah ça va, il y avait un petit truc qui me manquait depuis 3-4 ans, là, un petit Covid, ça faisait longtemps.
Et alors du coup c'était bien?
Tu sais, c'est comme quand tu t'as envie de remanger un truc que t'as pas mangé depuis longtemps et tu t'en fais toute une montagne et après deux bouchées tu dis ouais c'était pas si ouf
ouais.
Bah là c'était un peu pareil.
Ouais.
Petit Covid, gentil, pas bien méchant. Mais
je suis chiant.
Bah
voilà.
Isolement, tout ça.
Ouais. Bah écoute, tout ça pour rester à la maison avec ton petit chien.
Ouais, c'est vrai que pour ça c'est pas trop mal tombé, mais mais bon, oui.
Mais du coup voilà, on enregistre quand même en septembre, on est bon. Hein. On va pouvoir vous parler de ce numéro avec une gigantesque lune en couverture.
Oui. Comme dans la presse des années 90.
Comme dans la presse des années 90. Coucou, tu veux voir ma grosse lune? Non, c'est une lune littérale, c'est-à-dire l'astre lunaire.
Oui. Qui a un fort beau gabarit,
une belle grosse lune
bien gironde. C'est un visuel issu de Death Stranding 2 On the Beach, parce qu'il faut pas oublier de dire On the Beach, même si c'est un peu ridicule.
Mais... Oui, mais non, mais c'est comme les bronzés, quoi. Enfin, pour différencier les épisodes.
C'est Norman Reedus va à la plage. Pourquoi celui-ci? Parce que en fait, pour remettre. Traditionnellement, si je puis dire, le numéro de la rentrée, c'est le numéro post-Gamescom.
Exactement.
C'est celui où on va revenir sur le salon allemand, raconter un peu nos pérégrinations.
Les pérégrinations vers l'Est, du coup.
Vers l'Est, tout à fait. Sauf que cette année, on s'était dit, ouais, on est quand même un peu fatigué, on se fait vieux.
C'est vrai.
Le contexte actuel... Et pas non plus propice à la gaudriole. La Gamescom, s'il y a une année où on doit faire l'impasse, disons que ce sera 2024. Malgré tout, on s'est dit qu'on ne voulait pas s'empêcher de parler de ce qu'on fait habituellement dans ce magazine-là, c'est-à-dire les jeux à venir.
Oui.
Et du coup, plutôt que de parler uniquement des jeux de la Gamescom, on s'est dit qu'on allait parler un peu de tout ce qui nous faisait de l'œil et qui est actuellement en production, parce que on avait aussi fait le constat que jusqu'à présent, ça va peut-être changer d'ici la fin de l'année, mais l'année 2024, d'un point de vue purement émotionnel par rapport au jeu, on n'était pas rassasié. J'en veux pour preuve que pour l'instant, les jeux qui nous ont le plus saucé, ce sont soit des remakes de vieux jeux, soit des jeux en early access, soit je sais que vous avez passé une partie de l'été sur Disco Elysium, qui n'est pas exactement un jeu de 2024.
Un petit jeu très récent, ouais, effectivement.
Donc voilà, en fait, avec tout ça, on s'est dit qu'on avait besoin d'un peu d'espoir, on avait besoin de croire en de beau lendemain, d'où ce titre.
Entre temps, il y a le petit Zelda qui est sorti quand même.
Il y a le Zelda qui est sorti, c'est pour ça que j'ai dit que pour l'instant, il y a aussi un autre remake dont on va parler, je pense, dans le numéro 111 qui envoie du steak.
Il y a un petit Dragon Age qui sort aussi, mais
oui,
bon.
Oui, ouais, voilà, mais vraiment, ce gros premier semestre, on a eu des... Il y a eu des trucs, moi je sais que, par exemple, j'ai adoré refaire Persona 4, 3, pardon, 3. J'ai adoré jouer à DS2, mais dans un... Voilà, ce sont pas... des jeux étiquetés 2024, ou en tout cas pas des candidats au GOTY 2024.
Parce que toi, tu penses déjà, évidemment.
Bah bien sûr, bien sûr.
Toujours.
Non, mais enfin, pour le coup, Persona 3 peut l'être. Mais le DLC d'Elden Ring, par exemple. Le DLC d'Elden Ring, pas candidat GOTY.
Ouais, il faudra qu'on revoie les règles. Bah, hein, parce
non,
que...
non, je suis désolé. Bon, bref, ouais. Tout ça pour dire qu'on a cherché en gros tous ces jeux qui pouvaient nous redonner un peu la flamme. Et parmi eux, effectivement, Death Stranding 2 et GTA 6. Puisqu'on en parlera aussi, font vraiment office de jeux comme ça.
De locomotive.
Ouais, d'astre.
D'astre brillant. Où il reste dans la métaphore, c'est superbe.
Voilà, c'est ça. Et en plus, on avait un visuel que moi j'aime beaucoup, très JV. Hein,
oui, bah une personne de dos qui regarde l'horizon.
Mais oui, voilà, c'est un peu boule sur boule. C'est un peu lune sur lune. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, oui. Là, on parle d'un cul, du coup.
Mais aussi d'une lune.
Mais aussi d'une lune. Après, d'un point de vue purement graphique, moi, c'est toujours les visuels qui me font très peur parce qu'ils rendent très bien à l'écran. Et à l'impression, c'est toujours un peu une tannée parce que c'est donc un visuel qui est à la limite du noir et blanc, du niveau de gris, qui est à la fois avec cette lune magnifique, très blanche, et ce sol... très très noir et le personnage en silhouette, et je dois avouer que le visuel est quand même un peu sombre, on a un peu du mal à voir un peu les contrastes. Ouais. Moi, c'est toujours...
Mais en même temps, tu es allé sur la lune, tu sais comment c'est. Tu sais,
ça ressemble à la lumière.
Tu connais les éclairages sur la lune.
Mais bon, il est pas sur la lune.
Il est pas sur la lune.
On sait pas.
Il la voit.
C'est Kojima.
Il est juste en Islande, c'est un samedi après-midi en Islande. Hein.
Non mais enfin, pour le coup, ça fait partie des trucs qu'on redira, mais... Enfin voilà, on parle aussi de Death Stranding 2. Alors on le fait malheureusement quelques semaines avant le TGS où, alors il n'y a pas eu une montagne d'infos, hein, mais il y a eu pas mal de petits extraits vidéo, des trucs très légers. Hein. On a vu le mode photo surtout. Kojima s'éclate beaucoup.
J'ai vu une séquence de 2 minutes où il discute avec.
Celle-là elle est plutôt chouette.
Et, qui joue.
Non, mais ils nous montrent aussi le mode photo qui est quasiment un mode TikTok, en fait, où tu peux vraiment mettre le jeu en pause et laisser les personnages prendre des pauses. Bon, c'était pas très intéressant.
Comme c'est tous les modes photo, quoi.
C'est intéressant, le mode photo. Après, il faut voir ce qu'on en fait, mais dans l'absolu, c'est un outil plutôt cool.
Non, moi je suis contre. On en parlait d'ailleurs, ils en ont parlé un peu chez Prestart ce week-end.
Le festival qui a lieu tous les ans à Paris, toujours en septembre, au centre
Pompidou.
Pompidou.
Bref, j'étais assez d'accord avec ce que disait Olivier sur le mode photo.
Très bien.
Donc, est-ce qu'il y a des fois où vous n'êtes pas d'accord avec Olivier?
Oui,
bien sûr, il a aimé Challengers.
Ah oui, non, il y a beaucoup de choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord avec Olivier.
Et donc oui, dans ce dossier de couve, on revient donc sur les raisons pour lesquelles on attend Death Stranding 2. Enfin, vous attendez Death Stranding 2.
Ben oui.
On reparle, comme tu l'as dit, un petit focus sur GTA 6, évidemment. Ouais. Est-ce que pour l'instant, qu'est-ce qu'on en sait de GTA 6? C'est pas non plus. Il y a eu un gros trailer quand même. Et depuis, il y a eu des.
Non, pas vraiment. Il y a des rumeurs sur un report potentiel. Mais non, je pense que là, ils bossent. Et je pense que l'actualité leur donne aussi beaucoup d'éléments. Pour nourrir le jeu aussi.
Ouais. Avec les. Ouais.
Presque trop, sans doute.
Toutes les enduneries qui se passent là-bas.
Bah oui. Bah disons qu'il y a une élection aussi là. Non, t'as pas
compris. Ah si, non mais.
Bah disons que c'est possible que ça aide. Ça nourrisse le contenu du jeu.
Il y a des élections toutes les 20 minutes aux États-Unis. Et là, oui. Enfin bon, bref.
Mais je pense. Mais bon, il sera peut-être pas politique, on sait pas.
Oh bah non,
ça se trouve, GTA 6.
C'est un jeu vidéo, de toute façon, donc c'est pas politique.
On ne sait pas.
Et puis GTA, ça m'étonnerait.
Bon, c'est pas le genre.
Ça l'a jamais été.
En tout cas, on souhaite bon courage aux personnes qui travaillent sur le jeu en ce moment, parce que je pense qu'ils doivent être dans un crunch infini. On pense à vous, vraiment. Essayez de rester hydraté, dormez un peu.
Mais non, mais en fait, c'est important, parce que... En fait, Kojima, c'est, enfin, le Death Stranding, c'est peut-être un cas à part, parce qu'on est vraiment sur un jeu... Enfin, un jeu à part, on le sera sans doute avec le 2 et on l'était déjà avec le 1. Mais GTA 6, en fait, au-delà du jeu et du retentissement et de son succès, ce sera immanquablement un marqueur, en fait.
Ah oui.
Alors c'est vraiment un lieu commun de dire ça, mais il y aura un avant et un après. Et à tous les niveaux, je pense, d'un point de vue industriel et aussi d'un point de vue éditorial, ou ouais, en tout cas, ça va faire bouger des lignes. Donc, on est forcé de l'attendre, qu'on aime ou pas la licence, ou que ça ne nous intéresse pas d'un point de vue purement gameplay. Je pense que quand on s'intéresse aux jeux vidéo, t'es forcément curieux par rapport à ce que va proposer GTA 6. Donc oui, on suivra.
La pression, enfin non, c'est horrible, je vais essayer de me mettre à leur place, la pression. Imagine, le jeu est nul. C'est horrible, je pense pas. Hein. Mais, oh là là.
Ouais, j'ai du mal à...
Fin... Non, bah oui, non. Mais ouais, en fait, bah, encore une fois, on renouvelle notre soutien aux personnes qui travaillent et qui doivent pas être dans une situation très confortable. De quoi qu'attendons-nous d'autres ? Ça existe, que je dis bien.
Oui, qu'attendons-nous d'autres ? Bah, en fait, après, donc là, on avait ces deux jeux-là qui étaient vraiment, nous semblait-il, vraiment incontournables. Et derrière, on a plus pioché dans les jeux, peut-être à plus court terme, soit au Summer Game Fest, mais dont on n'avait pas encore parlé, soit découvert par procuration à la Gamescom. Ouais. Donc voilà, on en a cité quelques-uns.
Soit vraiment des trucs
dont
moi, j'avais même jamais entendu parler.
Ouais, en fait, on a vraiment cherché des jeux qui sortaient un peu de l'ordinaire, qui avaient une proposition qui, sinon nous excitait, au moins nous interloquait, quoi. Enfin, par exemple, moi j'ai mis le The First Berserker Kazan, que certains ont pu essayer à la Gamescom, et je crois même qu'il y a eu un week-end d'alpha.
Ouais.
On a l'impression que c'est un beat'em up très Devil May Cry soulsien, mais il y a une patte esthétique un peu différente. Donc voilà, on peut faire ça. Et on peut aussi parler d'un jeu comme We Harvest Shadows, qui pour moi a été une des surprises de l'ONL de la Gamescom, où on est sur un jeu de farming horrifique,
ouais,
un jeu anti-cosy, comme l'a décrit son réalisateur. Et ça m'intéresse, parce que c'est vraiment quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, où on a tous les codes de Farming Simulator, ou d'un jeu, ou en tout cas de rénovation à la première personne, comme on en voit tant. Sauf que d'un coup, ça part en cacahuète et il y a un monstre qui commence à encercler la ferme, quoi. Donc voilà, on a choisi plein de jeux comme ça. On vous laissera picorer. Voilà, à chaque fois, on a essayé de pitcher le jeu et de derrière d'expliquer en quelques mots pourquoi ce jeu-là sortait un peu du lot et pourquoi il nous intéressait. Alors, des tout petits jeux ou des jeux peut-être... sinon triple A ou moins double A, genre le nouveau Mafia, qui moi m'intéresse sur son setting, par exemple. Nouveau Mafia qui revient aux origines de la mafia en Sicile.
On retrouve, c'est intéressant, c'est qu'on retrouve, j'ai l'impression, pas mal de jeux de d'anciens créateurs, quoi. En fait, on a le nouveau jeu des mecs qui avaient fait Life is Strange, ceux qu'on fait Highlight Drifter ou Solar Ash.
Ouais.
Comme quoi, même si moi c'est une tendance qui me plaît pas forcément, mais j'ai l'impression qu'on essaie de dire que c'est pas le jeu vidéo, c'est pas que des jeux d'auteur et que c'est une équipe de développement qui sont à charge du truc, ce à quoi je suis entièrement d'accord, mais j'ai quand même l'impression que s'il y a une tête un petit peu pensante derrière et qu'il y a une vraie intention artistique, créative derrière, le jeu en sera forcément plus intéressant, et j'ai l'impression que c'est ce qui ressort, quoi.
Moi je suis globalement d'accord, et c'est sans enlever le mérite à tous les responsables des différents départements de développement. Effectivement, c'est fait en équipe, mais c'est peut-être bien quand il y a un metteur en scène, quoi.
C'est ça.
Bref.
Oui, ben oui, non, mais oui, égaré, oui, non, mais... non. Allez-y. De quoi parlons-nous donc d'autres ? Moi, je n'arrive plus à parler, je vais vous laisser, c'est pour ça, je vous laisse.
Bah, reprenons dans l'ordre du magazine. Un petit
dans
train
le
de
train
hype.
De l'hype ce mois-ci, on revient sur Black Myth Wukong. Alors il n'est pas en critique.
Tout à fait.
Il est du coup plutôt dans le train de l'hype. Pourquoi Kevin Bitterlo, auteur de l'article?
J'ai envie de dire que la raison numéro un, c'est qu'on n'a pas eu le jeu.
Voilà. Merci, au revoir.
Ça, disons que ça n'a pas aidé. Mais après, qu'on n'ait pas un jeu, ça arrive tous les jours. Je veux dire,
oui.
C'est plus à la fois les raisons pour lesquelles on n'a pas eu le jeu, et en tout cas les réponses qu'on a eues quand on a fait nos demandes.
Ouais.
Et de manière générale, la communication du studio sur laquelle on revient, qui a été déplorable, c'est pour ça. Après, on n'y a pas joué, bah tant pis, ça arrive, c'est pas grave. Je veux dire,
oui,
c'est pour ça qu'on va dire que le jeu est nul, on sait pas de toute façon. Mais ce qui était intéressant, c'est d'expliquer un peu, en fait, à travers ce papier, j'explique aussi un peu comment ça se passe concrètement pour nous quand on demande, même pas quand on demande, le processus d'envoi de version presse. J'explique en gros comment ça fonctionne d'habitude. Parfois il y a des couacs, parfois il y a des jeux qu'on reçoit pas, il y a des jeux qu'on reçoit mais dont on parle pas. Enfin ça, voilà, c'est un système qui fonctionne mais le cas de Wukong est assez intéressant, donc je vous laisserai lire un peu.
Non, on se brûle pas, faudra lire le magazine.
C'est ça.
On parle aussi de Concorde. Oui. Quelqu'un se souvient c'est quoi Concorde? Eh bien non, car le jeu est déjà débranché.
Ouais, bah pareil, lui il n'est pas en critique, on n'a même pas eu le temps. Je mentirais si je disais qu'on en avait envie. C'était pas un jeu qui nous excitait follement dès le début, ça sentait le gadin à plein nez. Après, comme souvent quand ça sent le gadin, il y a un côté punching ball qui arrive assez vite.
Oui.
Ça, c'est très, très jeu vidéo, je trouve.
D'aller tirer sur l'ambulance.
Ouais, et ça a été le cas. Alors, ça. Disons, limite, les munitions ont été fournies par Sony lui-même, hein, qui n'a pas défendu outre mesure son jeu. Mais voilà, bon, on parle un peu de. En gros, bah, de la fenêtre médiatique très courte au final de Concorde, annoncée genre fin mai.
Un state of play
un peu juste en amont du Summer Game Fest, sorti en août et débranché à peine deux semaines plus tard. Donc on revient un peu sur ce feu de paille.
Ah ouais, ouais. Là encore, imagine toutes les équipes qui ont bossé là-dessus.
Ouais.
L'enfer.
C'est très très symptomatique de l'industrie. Du coup, on en parle. Alors, c'est un peu triste de faire un post-mortem en preview, quoi. Enfin, c'est ça. C'est l'oraison funèbre d'un jeu dont on n'a même pas célébré la naissance. Presque. Ouais. Très très bizarre. Parlons d'oraison funèbre.
Alors, justement, l'enchaînement. Oh là là, la transition. Game Informer, vous vous souvenez?
Alors, ça pour moi, ça a été vraiment la grosse grosse info média de l'été. GameStop, grande chaîne de magasins, qui détient également, enfin qui détenait le magazine Game Informer.
Qui, là, on parle vraiment d'un magazine papier comme JV Le Mag.
Voilà, et qui, il y a encore pas si longtemps, était le troisième magazine le plus distribué aux États-Unis, derrière le Time et
Le
Mag
de
sport, Sports New, Sports. Je sais plus comment c'est appelé.
On me regarde pas.
Oui, c'est pas moi
qui vais savoir.
Bref, bon, en tout cas, un monstre sacré de la presse qui appartenait donc à une sorte de super micromania aux États-Unis, en tout cas dans les pays anglo-saxons, et dont le président a estimé que, à défaut de, enfin, sans que ça perde de l'argent, ça n'en rapportait pas. Pas assez, et du coup ça a été killé comme ça du jour au lendemain, alors que c'était une institution. Et ce qu'on dit aussi dans le papier, c'est que Game Informer, au-delà de il y a des râles sous la table,
je crois qu'on l'entend,
il y a un zombie.
Il est très triste.
Oui, bah par Game Informer, il aimerait bien sans doute le mordiller, le déchirer. Mais c'était une institution, un rendez-vous, déjà un choc visuel parce que les couves étaient très marquantes, elles donnaient le ton et c'était. Ce que je dis dans le papier, c'est que nous, on le voit à notre petit niveau quand on met un jeu pas un triple A, mais quand on met, comme on a pu le faire cet été, avec Expédition, ouais. ou avec, je ne sais plus, comment s'appelait ce jeu, Under the Sea, je crois que ce n'est pas ça le... Si, c'est ça, Under the Sea. Non, c'est quoi le titre exact?
Ah bah super.
C'est pas Under.
C'est pas Under. C'est la chanson, ça, je crois.
ou Steel Rising. En gros, on fait énormément aussi plaisir aux gens qui bossent dessus. Parce que, voilà, avoir une couve papier d'un jeu sur lequel on a bossé, c'est, bah voilà, c'est un peu comme quand on avait un poster quand on était gamin.
C'est vrai.
Il y a quelque chose de physique, de concret. Et voilà, il faut imaginer ça à l'échelle de Game Informer, quoi.
Under the Waves.
Under the Waves. Oh, j'étais pas loin. La mer, c'est des vagues.
Oui, oui, oui.
C'est Sports Illustrated.
Oui, voilà.
Que tu cherchais.
Putain, t'es trop fort. Ce montage va être si facile. Donc voilà, donc, bah, moi, ça m'a fait un choc de voir Game Informer disparaître. J'en étais pas spécialement un lecteur assidu. J'aimais bien... en fait, c'était aussi quelque chose de très, très important quand tu fais des recherches sur des jeux, parce que ouais. tu avais des longs entretiens, des notes d'intention souvent. Alors ça restait un magazine très consumériste, hein, oui. Forcément.
Bah, qui était fait pour être distribué dans les GameStop, justement.
Ouais, voilà.
Les couves, bah, on se doute que c'était des couves qui étaient dealées.
Oui, oui, mais disons que c'était une telle évidence de faire ça comme... chez Game Informer, ouais. que bah, forcément tout le monde y allait,
ouais.
et quand tu fais des recherches et que tu veux retrouver des citations, des trucs comme ça, bah, Game Informer c'est important, quoi. Donc voilà.
Bah, et de se dire que si un géant comme Game Informer ferme du jour au lendemain, c'est pas très rassurant sur la qualité de la presse de divertissement en général et de la presse tout court en particulier.
Mais c'est aussi, ce qui l'entraîne dans sa tombe, c'est GameStop. Qui lui-même a des soucis parce que le jeu en physique, ça se casse la gueule depuis un bail. Et du coup, ça lâche du lest, quoi.
Je sais pas si vous avez vu passer ça sur les réseaux sociaux. Il y a un gars qui a filmé en fait un GameStop. Aux États-Unis, on comprend assez vite que la personne qui filme est un ancien employé de Game Informer. Et il passe devant un GameStop et il y a une statue gigantesque d'un personnage de Dark Souls, je crois, en vitrine. Et il est avec sa gamine. La gamine qui fait « Oh, regarde, c'est marrant, c'est la même statue qu'à ton travail !» Et le gars fait « Chelou !» Il va dans le magasin, il fait « Salut, elle est super cool, la statue dans la vitrine. Vous l'avez depuis longtemps ?» Le mec répond « Bah non, on l'a eu quand Game Informer, ils ont fermé. » Qu'en fait, ils ont vraiment dépouillé les bureaux pour aller décorer les GameStop aux alentours. Quoi. Et tu vois le gars qui fait « Merci !» Après, il regarde la caméra, il fait une tête, genre il a envie de crever, quoi. C'est horrible. C'est vraiment horrible.
Mais en même temps, enfin voilà, ce que j'ai aussi dans le papier, c'est que le PDG, donc je ne sais plus son nom, mais qui a fait... qui a fait fortune avec une appli de bouffe pour animaux de compagnie.
Ah ouais.
Mais vraiment, fortune, il est devenu milliardaire au début des applis, quoi, genre 2006-2007. Ouais. Et donc, qui est de nouveau PDG. Il avait dit, genre sans embâge, hein, il y a un ou deux ans, de toute façon, moi, j'hésiterais pas à virer les déchets, quoi, à vider la poubelle, quoi.
Oh.
Et bah voilà.
Ouais, ouais.
Mais c'est ouf, et c'est comme tu le disais, c'est pas que ça perdait spécialement de l'argent en plus.
Non, 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 c'était. En fait, ça fonctionnait sûrement avec beaucoup d'offres. Genre, t'avais un abonnement GameStop.
Avec un.
T'achetais ton jeu et t'avais ton année d'abonnement et tout. Mais oui, le parc, il était colossal. On parlait de. Oui, ça se comptait en millions, ouais. dizaines de millions de lecteurs, quoi.
Ouais, mais non, c'est vrai que ça fait forcément...
Après, c'est un magazine quali, ça coûtait sans doute du blé à produire, mais de là à qu'il est de cette manière-là, je veux dire, ils ont même pas pu sortir le dernier numéro sur lequel ils ont... Enfin, il est sorti qu'en numérique.
Ouais.
Mais ils devaient pas faire assez de recettes, j'imagine.
Non, sans doute pas, mais parce que...
Suffisamment pour ce...
Parce que le modèle économique était pas... Enfin, c'était pas un truc, une boîte indépendante qui ne vivait que par ça. Je veux dire, ça fait partie d'un groupe, il n'y avait que des offres jumelées et tout. Je sais pas.
Ça ne devait pas l'intéresser de gagner peut-être.
Ils avaient déjà réduit les effectifs.
Oui, c'est ça.
Oui, je pense que c'est.
Il avait dit aux actionnaires, ça vous rapportera 1 milliard, ça a rapporté que 1 million.
Je ne suis pas de la presse pour devenir riche.
Non, je connais des gens.
C'est ça. Donc, oui, c'est. Non, mais. Ne serait-ce que nous, on est contents quand ça roule. Tu vois, quand on gagne autant qu'on dépense, ça tourne quoi.
Nous on est à zéro, c'est cool. C'est vraiment juste assez pour qu'on puisse continuer.
Le jour où on gagne des sous, on arrête.
Bah ouais, c'est trop bizarre. c'est vraiment trop bizarre.
On fera pas mieux.
Non mais tu vois, c'est comme pour reprendre un exemple français, mais Gamekult. C'est un peu de faire du même. C'est racheté de groupe en groupe. Au bout d'un moment, il y a un gars qui dit c'est quoi ce machin et.
Oui,
on est triste. Il y a d'autres gens qui sont tristes.
On va accélérer un peu parce qu'on passe beaucoup de temps sur.
Il y a d'autres gens qui sont tristes, c'est les gens qui travaillent chez Spiders.
Ils sont un peu tristes, ils sont plutôt fâchés. Ils sont un peu vénères. Disons que ça avance. Mais en gros, on revient sur la lutte sociale qui a lieu chez Spiders, donc le studio français qui sort Café en ce Grid moment Fall même, Gridfall 2, qui sort en early access sur Steam là, ces jours-ci, et qui est aussi donc, le théâtre d'une lutte sociale. Donc on revient un peu sur. Sur les dernières négociations, parce que ça avance malgré tout, tout ça, mais on revient aussi un peu sur les causes à l'origine de tout ça. Et on comprend qu'au-delà de la situation dans le studio, il y a aussi sans doute une lutte syndicale entre le STJV d'un côté et la nouvelle patronne du studio, Anne de Voissou, qui est la présidente du SNJV.
C'est ça.
Donc voilà, alors vous attendez pas une enquête. Non. C'est plus une sorte, c'est un rappel des faits pour, si vous êtes passé à côté de l'actu, on vous encourage à voir d'ailleurs le travail d'Héloïse chez
Origami. Elle a sorti sa plus belle panoplie de journalistes dans la rue.
Elle est allée au piquet.
Elle y est allée. Elle est pas mal, cette petite.
Elle au piquet de manière assez... Mais voilà, si vous n'avez pas du tout suivi l'info, voilà, c'est un rappel des faits, mais c'est pas un complément d'enquête non plus. Quoi.
Oui, non. Élise Lucet n'est pas encore venue chez nous. Pas encore. Jules nous a fait un papier sur Fallout London, figurez-vous.
Oui, le mode... C'est un mode qui... qui est peut-être plus quali que beaucoup de jeux à part entière de Bethesda ces dernières années. Donc voilà, en gros, il fait un petit papier pour parler de ça, du phénomène qui a clairement dépassé les attentes initiales. Donc voilà, c'est un gros... si vous étiez passé à côté de cette info, c'est un beau papier qui résume en gros l'actualité autour de ce mode qui fait sensation.
Sensation, c'est bien dit. Et enfin, ce train se termine par un papier de Michael sur Dream the Way.
Ouais. Ça, j'ai envie de dire, c'est presque un nouveau format qu'on développe ces derniers temps. Alors, pas forcément sur deux pages, mais en tout cas, c'est une sorte de... Moi, j'aimais bien sur Gamekult, ils avaient la rubrique Carnet Rose, qui est en gros l'annonce d'un jeu. Sauf que, donc là, en gros, on présente, en tout cas dans le magazine, pour la première fois un jeu, tout en échangeant avec son ou ses créateurs. Donc, en l'occurrence, c'est Nicolas Peton, qui a un nom charmant, qui nous présente son jeu. Donc, c'est un entretien, une note d'intention autour du jeu sur lequel il travaille. Et j'aime bien ce format. On avait fait Threshold, je crois, il y a deux numéros avec Marion à l'époque. Ouais. Voilà, on va essayer de développer ça pour faire découvrir de plus en plus de jeux indés qui essayent de se faire une place dans cette jungle.
Oui, ouais, ouais. En portrait, ce mois-ci, Laura Fournier. C'est marrant parce que du coup, nous, on la connaît bien quand même.
Oui.
Et donc, elle est senior producer chez Nerial.
Ouais.
Et qui nous a autorisé à diffuser une photo adorable de son enfance. Oui. Où elle est à peine plus grande que le gigantesque carton de jeu PC ramené dans la sphère familiale.
Ouais. Ouais, c'est cool. Effectivement, Laura, elle a eu pas mal de vie. Nous, on la connaît depuis longtemps, mais pas forcément au même poste, on l'a vu, ni dans le même métier, d'ailleurs. Et C'est Marion qui m'a soufflé son nom en disant « Tiens, on pourrait faire le portrait de Laura. » J'ai dit « Bah ok, c'est vrai. C'est vrai qu'on pourrait faire le portrait de Laura et elle l'a fait très bien. »
C'est vrai que c'est intéressant son parcours justement de voir comment on atterrit dans le milieu professionnel du jeu vidéo très souvent par hasard et comment on peut changer de métier, de branche, de pays.
Et puis dans un magazine de gauchias comme ça, avoir en portrait quelqu'un qui est né à Saint-Trope. Ça change un peu, quoi. Je veux dire, ça rééquilibre les forces.
C'est vrai. On essaye de d'élargir ouais, un peu.
C'est ça, bah, on sent le sens du vent.
Écoutez, hein. C'est vrai que ça ne devait pas être la même ambiance.
De l'ordre.
Oh là là, arrête.
Voilà.
Ah tu veux nous raconter ton Only Profane, Kevin ? T'as joué à quoi ?
J'ai joué à découvrir le jeu en boîte. J'en n'en dis pas plus.
Non,
le
Only Profane,
je pense que ça se laisse découvrir. Ça... En fait, il faut le laisser venir à soi, quoi. Tu vois,
d'accord,
c'est pas
ouais.
quelque chose mm-hmm. que tu spoiles.
Spoil pas, ouais.
Non, ben on vous laissera découvrir. La...
Tout celui-ci.
Ça reste la meilleure rubrique du magazine. En décodé,
oui.
Arnaud. Nous a fait une petite sélection de jeux vidéo de sport parce qu'il était un petit peu en manque de Jeux Olympiques.
C'est ça.
Comme
nous
tous.
Non, ça va.
Ouais, bon, comme deux tiers du monde. Bah forcément, comme nous, on a fait un hors-série Game Boy cet
Vous
été.
Vous avez entendu parler de notre hors-série Game Boy.
Et que le numéro d'avant avait été bouclé un peu avant les Olympiques. On n'en avait pas vraiment parlé. Donc, en fait, la dernière fois qu'on aurait pu en parler, c'était encore à l'époque où on était un peu taquin en disant « Attends, les JO, ça va être une catastrophe, machin, et tout. »
Moi, j'attends toujours la grève générale, écoutez. Hein.
Ouais, ben non, finalement, ça s'est plutôt bien passé. Et c'était, du point de vue du spectacle et du sport, c'était quand même plutôt bien. Et voilà, nous sommes quelques-uns à ressentir une petite émotion, on y repense en disant est-ce qu'on en a assez profité, etc. Et Arnaud s'est dit qu'il allait essayer de prolonger un peu le kiff en recommandant des jeux, mais avec un petit pas de côté, c'est-à-dire que ce sont des jeux qui vont rendre hommage ou s'inspirer ou avoir... Un vague rapport avec des disciplines olympiques. Donc, on peut avoir des jeux sur les Jeux olympiques, pardon.
Oui.
J'allais dire des jeux olympiques. J'arriverais, je me suis dit que j'allais cracher partout. Ou on peut avoir un jeu caveman avec des courses
ouais.
de dinosaures.
Exactement,
quoi.
Ouais. Ouais, ouais. Mais ça, c'est.
Donc,
ça
voilà.
a été prouvé.
C'est
hein.
une sélection. Assez bizarre. Je veux dire, à un moment, au début, on pensait mettre ça en conso. Et puis je me suis dit, c'est pas un conso. Je veux dire, on va pas recommander aux gens d'investir dans le jeu David Douillet, quoi. Mais par contre, en décodé, genre un peu rigolo.
On
avec
devient
des...
vraiment de droite. Hein. David Douillet, là.
C'est vrai. Enfin, quoique. Si on recommande pas un jeu David Douillet, ça veut dire qu'on recommande pas un jeu d'un ancien ministre de Sarkozy.
Ouais.
Pas tant de droite que ça. voilà, donc y a des jeux très cool, de manière générale, les jeux sont cool, mais déjà, je dis ça parce qu'il y a Hyper V-Ball et on peut pas faire plus cool qu'Hyper V-Ball, je veux dire, c'est le jeu le plus cool de tous les temps. Mais voilà, il y a des jeux de trampoline, c'est un peu chelou comme
c'est
papier,
vrai,
c'est rigolo à lire.
Il y a même
lire.
Un jeu Playdate.
Bah,
parce
oui,
que, oui,
bien
on
sûr,
a...
bien sûr. Non, mais c'est. Voilà. Mais c'est pas un conso. C'est clairement
pas
un conso.
Pas un conso. Ça aurait dû être le titre. C'est pas un conso.
Ceci n'est pas un conso.
Ceci n'est pas un conso. Qu'est-ce qui n'est pas un conso ? C'est Olivier en Tchéquie, par exemple. Aussi.
C'est vrai, ça. Est-ce que tu veux en parler un peu, Bubu ?
Bah, écoute, on a envoyé. Donc, ouais,
le plus loin possible.
Olivier, en espérant qu'il n'en revienne pas, mais bon, il est revenu.
Franchement, c'est vrai que. Je veux dire. Pourquoi il est revenu, quoi ? Je veux dire, je l'envoie dans une sorte de joute médiévale. Je me dis, bon, il reviendra pas. Soit il fait une indigestion à la volaille dans un banquet, soit il se prend
une épée.
Ouais, voilà. Mais non, il est revenu.
Dans un duel. Mais ouais, il est revenu.
Pour Kingdom Come, hein, on le précise.
Ouais, ouais.
Il allait voir Kingdom Come.
Donc, en effet, pour voir Kingdom Come Deliverance 2. Et il a été plutôt plutôt intéressé, j'ai envie de dire, par ce que le studio lui a montré, quoi. Et,
ouais, par le jeu.
Par le jeu, ouais. Et puis, bon, c'était un petit peu aussi l'occasion, bah, ouais, le nom du studio m'échappe, mais de
Warhorse.
De parler un peu du studio aussi, ouais. d'où ils viennent, etc. Et de remettre un peu tout ça en contexte, quoi.
Voilà, et tout ça, donc, dans la ville de Kutná Hora. Donc en République tchèque, je ne sais plus, j'avais regardé, c'est une centaine de bornes de Prague, je crois. Une ville donc avec une belle cathédrale, moins belle que celle de Cologne, hein, on y connaît. Mais une jolie cathédrale.
Une tier list des cathédrales.
Ouais. Ah, c'est intéressant ça. Toutes les tier lists sont intéressantes. Et donc voilà, non, mais c'était une sorte de petit voyage de presse un peu pour se plonger aussi dans l'univers du jeu, voir un peu des endroits qui ont pu influencer le level design aussi et tout. Oh, c'était un petit sujet rigolo. Voilà.
Et paraît-il qu'Olivier a fait un excellent voyage entouré de charmantes personnes dans l'avion.
C'est vrai.
Ouais, qui n'aiment pas la politique.
Des gens qui n'aiment pas trop la politique. Les critiques, on a quand même joué à des jeux vidéo.
Il y en a qui sortent, Christophe
il a joué à Warhammer, ça c'est ton truc ça.
J'ai joué, pas vraiment. Enfin, Gears of War, oui, donc
tu pensais que
ça ressemblait à Gears of War.
Moi je me rappelle l'an dernier quand tu y avais joué un peu à la Gamescom, t'étais quand même un petit peu hypé.
Bah oui mais
ça retombe quoi, c'est un peu
je savais pas que la séquence que j'avais vue ça allait être ça pendant 10 heures sans
petit enfant de l'été. Il avait pas fait le 1 lui.
Il connaît pas les jeux vidéo. Oui, on parle de Space Marine 2, hein,
oui.
Mais
qui est
loin d'être un mauvais jeu, ouais.
Par exemple, t'as préféré Star Wars Outlaws?
Bah...
Finalement...
Non, mais oui, enfin, je me suis moins ennuyé au final, je pense. Et notamment parce que pour un jeu en monde ouvert, ça se fait assez vite. Et puis parce que le jeu est très immersif, je trouve, et que... Si on est un fan de Star Wars, ce qui n'est pas spécialement mon cas, je pense que c'est un peu un fantasme de joueur,
ouais. Ce jeu. On parle aussi de Caravan Sandwich, qui a été une petite déception pour Yaël.
Ouais.
On parle de Flint Rock, ça c'est Jules qui a écrit. On parle de quoi d'autre? On parle de
Flintlock.
Oui, pardon, Flintlock, je ne sais plus ce que j'ai dit.
Elle fait des coquilles à l'oral.
Des coquilles à l'oral, c'est ça. C'est pour voir si vous me relisez à l'oral aussi. On parle d'Anger Food, de One Button Bosses, de Dustborn, de Nobody Wants to Die.
C'est pas faux.
C'est vrai, on parle de The Crush House. Et d'autres jeux, je ne vais pas non plus tout, je vous laisserai.
Je crois qu'il n'y a pas encore de coup de cœur. Hein.
Tu vois,
sur ce numéro, oui.
Ouais, toujours pas. Plus de coups de gueule, en tout cas. The Operator, t'as fait sortir de tes gonds.
Ouais, pourtant j'aime bien, mais c'est plus le côté frustrant qui ressort. Bah,
ça arrive. Moi, je dis toujours, hein, la caricature de jeux vidéo coup de gueule. Elle est mieux que celle qui est dubitative, en fait. Dubitative, ouais. T'as rien ressenti, c'est beau.
Ouais, tu t'es fait chier.
Alors que, quand tu pousses un coup de gueule, c'est que d'une certaine manière, le jeu t'a fait réagir.
Oui, tu t'attendais à mieux et t'as été déçu.
Nos collaborateurs hésitent à l'utiliser parfois, que moi, je peux mettre
le
coup de gueule et aimer plus un jeu que si qu'un autre
dit
un bof. Quoi.
Ouais.
Tout à fait.
Septembre 2004, c'était il y a 20 ans.
C'était où Bastank? Je l'ai entendu depuis. J'ai dit à madame à la maison, Jean, putain, la chanson insup.
J'ai eu dans la tête pendant, je sais pas, une semaine à cause de toi. Je sais que c'est le but et j'espère que t'es fier.
The reason is you.
Mais sinon, tu nous parles de Second Sight.
C'est vrai.
Un jeu dont moi, j'avais jamais entendu parler, par exemple.
Je pense que pas assez de gens ont entendu parler, alors que c'est un jeu assez intéressant. Fait par entre deux Timesplitters, par le studio Free Radical Design, qui plus tard se heurtera, enfin tombera dans l'abîme en faisant Haze sur PS3, la catastrophe intersidérale Haze. Mais avant ça, il faisait des jeux un peu intéressants. Un peu pas piqué des hannetons, j'en
ai dit. Oh là là, pas piqué des hannetons.
Et Second Sight, ça a été, en fait, d'un point de vue scénaristique, ça ressemble pas mal à ce que Treyarch a fait plus tard avec le premier Black Ops, en fait.
Ouais.
C'est une histoire soldat, amnésique, entre amnésie et traumatisme, et qui revisite ses propres souvenirs, etc. Enfin, c'était un jeu assez intéressant qui a pas cartonné, mais
8,5 sur 10 sur Game Informer.
Bah oui. Voilà, donc je le dis. Voilà, t'enlèves toujours un point ou deux et t'as la note normale.
Elle a mis 7, ouais.
Puis Free Radical, c'était un studio qui était très intéressé par tout ce qui fonctionnait autour du voyage dans le temps et de la temporalité de manière générale. Donc voilà, un jeu dont on s'en souvient plus de la jaquette que du gameplay.
Ah oui.
Ouais, la jaquette, elle a marqué beaucoup de gens.
Mais je pense que je la voyais dans toutes les, les bacs d'occasion. Il en avait 50.
C'est un peu triste, hein, c'est
vrai. Je me suis dit, bah non, il va pas être bon, ça.
Septembre 2004, c'était aussi le dernier Gen 4.
C'était le dernier de
magazine qui s'arrête.
Ah oui.
Ouais,
et tu sais ce que j'ai oublié en septembre 2004, je le mettrai en octobre 2004, mais Lost. C'est le premier épisode de Lost.
Ah oui.
Donc c'est pas grave, j'en parlerai demain prochain. En Try Again, nous avons Amandine. Amandine, on le dit parce que c'était pas avant, a fait son stage chez nous au début d'année, au premier semestre, au printemps.
Elle a fait un stage en tant que secrétaire de rédaction.
Oui, et elle avait fait déjà une petite critique, parce que je sais qu'elle elle écrit au-delà de son travail en tant que QSR. M'avait proposé un Try Again sur la série Dotac, que je connais assez mal. Moi, le seul souvenir que j'avais de Dotac, c'est que c'était une purge en termes de base de données.
Ah ouais? Ah bah oui, comment tu...
Avec le point...
Oui, ça s'écrit point hack. Ouais.
Voilà, donc du coup, souvent on écrivait DOT, hack. Ouais. Quand il fallait mettre les tags pour référencer le jeu, c'était l'enfer.
Ah, l'enfer.
Et en plus, là où on bossait il y a plus de 15 ans avec Bubu, la base de données était une usine à gaz totale. Il y avait des doublons et tout. Je me rappelle avoir passé, je pense, 2 jours à tout clean autour de Dotac, alors que absolument personne faisait la recherche de Dotac sur ce site. Hein, mais j'étais assez fier de moi à la fin, c'était clean. Donc voilà, bon, en tout cas, elle revient donc sur la série.
Je suis fier de savoir qu'à une époque, tu rangeais les bases de données, Kevin.
Ah, mais si, j'aime bien en fait.
Ok.
Enfin, j'aimais bien. Peut-être que ça me saoulerait aujourd'hui. Mais donc, ça reposait, quoi, d'une certaine manière.
Oui, mais je comprends.
Vu le rythme qu'on pouvait avoir. Ouais,
c'était. Moi, j'aimais bien faire de la base de données. En gros, c'est un peu la même idée que le Try Again qu'on avait fait dans le numéro précédent sur Trails. C'est-à-dire que c'est un Try Again qui va se focus plus sur une série que sur un épisode en particulier, ouais. Et qui est aussi l'occasion de rappeler en gros la chronologie, de parler de tous les épisodes qui existent. De conseiller un peu si jamais on veut s'y mettre, s'il y a un épisode par lequel commencer.
Ça a l'air d'être un bordel pas possible.
Mais disons que...
Très bon résumé.
Bah non, c'est un bordel, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est la genèse du projet, quoi. De vouloir faire une sorte de MMO en solo, très méta, en fait. Il y a maintenant plus de 20 ans. C'était intéressant en fait comment la culture du MMO infusait dans du contenu solo, quoi, et dans la société de manière générale. Donc voilà, c'est un peu tout ça sur lequel Amandine revient.
En jukebox, Steve revient sur la BO de Danganronpa.
Ouais, hyper stressante. J'aimais bien.
J'aimais bien. En artbook, c'est Arnaud qui nous montre le travail de Marco Hulen, qui a travaillé sur Silence.
Ouais, c'est joli. Hein.
C'est vraiment joli. Je crois que j'ai même légèrement modifié la maquette de la page, enfin de la rubrique, pour mettre plus d'images.
Parce
que j'arrivais pas à choisir.
Très très chouette. L'art de Silence, là-haut, là, il est très très beau.
En spoiler, ça c'est toi, c'est assez rare que ce soit toi qui l'ai fait,
ouais,
Kevin.
J'avais envie, bon, en fait, j'avais envie depuis le début de l'année, depuis où j'avais refait le jeu, et je me suis dit que c'était le bon mois pour en parler parce que.
Donc, de quel jeu on l'a pas dit. De Persona 3.
Ah, pardon. Persona 3.
C'est la première fois que tu fais la rubrique, non?
Non, j'avais dû le faire au début de la rubrique, quoi. Mais en fait, là, je voulais revenir parce qu'il y a le DLC épilogue qui est sorti début septembre. Donc. Comme son nom l'indique, c'est un épilogue, donc qui se passe après la fin. Et
c'était la bonne occasion.
Le DLC est fait par rapport à ce qui se passe à la toute fin, ce que je raconte, comme d'habitude, plan par plan, quoi.
Plan par plan, de tout temps, Lille. Alors Lille, pas la métropole lilloise.
On pourrait.
Mais on pourrait faire de tout temps Lille, de tout temps Roubaix. Mais non, là, de tout temps...
Je suis pas sûr d'avoir 16 jeux face à Lille.
Là, c'est Lille en sens...
Insulaire.
Insulaire, voilà, merci du terme.
Oui, Olivier,
Qui avait envie de prolonger les vacances, manifestement.
C'est ça. Putain, la capture des Sims, elle m'angoisse.
Pourquoi ?
Je sais pas, et il m'angoisse.
C'est ignoble.
Mais enfin,
faites peur.
Vous n'êtes pas prêt pour les jeux vidéo. En vue subjective, ce mois-ci, on revient sur Cocoon. Et c'est Jean-Baptiste qui se prête à l'exercice.
Très très belle plume, ce Jean-Baptiste, qui nous parle de Cocoon, ouais.
Et de leur rapport à l'œil et à la vision.
Mm-hmm.
En histoire, c'est Antoine.
C'est son premier papier,
Antoine
d'ailleurs.
Trempé. S'appelle cet homme. C'est son premier papier dans le mag.
Que vous connaissez peut-être sous le pseudo N6, qui a été community manager chez Gamekult pendant longtemps. Et qu'on connaît, nous, depuis. Même avant ça, parce qu'il faisait partie de la communauté d'un site sur lequel on a bossé avec Bubu.
Et on a fait des choses.
Ouais, c'est vrai. Hein. Les deux.
On commence à avoir. Qu'on pouvait appeler de la bouteille. et Antoine, otaku dans l'âme, voulait parler de Mistwalker, donc le studio qu'a fondé Sakaguchi après ses longues années chez Square. Mm. Et donc on revient en gros sur tout le parcours de Mistwalker depuis sa création, donc c'était il y a une vingtaine d'années maintenant. Hein. Puisque il y avait eu
c'est Blue Dragon le premier.
Ouais, voilà, donc c'est Blue Dragon. Ouais, c'est ça, c'est la première, c'est la Xbox 360, c'est un des premiers jeux de la Xbox 360, Blue Dragon, donc
ouais, ça, ouais, 18 20 ans.
Ouais, il y a eu The Last Story dont on avait déjà parlé avec Pierre, je crois, Lost Odyssey qui est un jeu comment dire?
Moi j'aime bien, j'en garde un.
Mais moi aussi, alors qu'il y a plein de trucs tellement ratés dans le jeu, quoi.
Faut sans doute pas que j'y rejoue, mais le jeu avait quand même cette ambiance.
Ouais, il y avait un truc, hein, c'est
spécial. Et...
C'est clairement un des jeux où la technique foireuse de l'époque a vraiment. Chaque combat mettait une minute à se lancer, il y avait des loadings dans tous les sens. Il y avait un système de leveling qui était affreux. Il y avait plein de problèmes, mais en même temps, il y avait une ambiance, ouais. Il y avait un ton. Donc voilà, et ça se termine avec Fantasian, qui arrive, qui était un jeu donc sur Apple Arcade et qui maintenant arrive sur Switch. Donc voilà, on retrace cette vingtaine d'années du studio Mistwalker, de tous ses projets. Un peu touche à tout, parce qu'il y a du mobile, il y a eu du RPG.
Je ne me souvenais plus qu'ils avaient fait tout ça, mais en effet, il y a quand même pas mal de choses.
Ouais. Voilà.
Et tout ça, ça fait un JV numéro 110. Vas-y Christophe, t'as quelque chose à dire ?
Non, je constate que l'agenda
hors-jeu.
Les dates, l'agenda hors-jeu, ouais. Enfin, le hors-jeu...
C'est le moment où on règle des comptes, là.
C'est marrant qu'il
devrait avoir un jingle coquille.
Les dates sont étranges, quoi.
C'est marrant parce que quand c'était ton travail de le relire, tu t'en es pas rendu compte.
Jingle coquille.
C'était travail d'Élise avant tout, de relire.
Elle est absente, elle a tort. Donc.
C'est vrai.
Et oui, c'est quelqu'un qui nous l'a fait remarquer sur le Discord, bien sûr. Oui, peut-être une petite erreur dans les mois.
Donc le mois de septembre va rebooter, sachez-le.
À partir de demain, on fait septembre 2.
C'est, voilà. Ouais. Et dans le sommaire, Dustboard a été rebaptisé Dustboard.
Oui, bah écoutez.
Dustboard.
Ouais, c'est notre faute, on n'a pas relu.
Bah voilà.
Kevin.
Ouais. Bah oui, mais évidemment.
Il faut croire. Hein non, mais vraiment, il faudrait un jingle, parce que quand on relit ce magazine pour la première fois, quand on fait l'émission, hein, personne n'a jamais relu la moindre article.
Bah,
dès qu'on voit un truc, il faudrait qu'on puisse appuyer sur un truc et dire.
Alerte coquille.
Alerte coquille.
Il faut qu'on trouve ça, effectivement.
Voilà,
j'ai mais sinon, 110, il est bien quand même.
Ouais. Bien sûr.
Il est plutôt cool.
Je suis allé au ciné voir Joker Folie à 2, parce qu'il était manifestement sorti et j'ai vu qu'il n'était pas à l'affiche. Mais sinon, tout va bien.
On ne doit pas faire des remerciements, on ne doit pas faire
bien sûr
de
que
la
si.
Promo.
Mais bien sûr que si.
Mais oui, c'est vrai. Y a
bien sûr. Oh là là. Car vous n'êtes pas sans savoir que nous avons lancé au début de l'été. Oui, mon chien, tu nous entends. Hein, une nouvelle formule d'abonnement sur Ulule, qui donc a lancé des nouvelles. Je ne trouve pas la page.
Oh,
c'est bon, merci. Ulule a lancé une nouvelle formule de financement par abonnement mensuel, un peu à la manière de Patreon. Il se trouve que nous, c'est exactement le genre de choses qu'on cherchait. Donc, on vous propose ça depuis le mois de juin. Et vous avez donc la possibilité maintenant de vous abonner avec un abonnement numérique. Pour 4 euros par mois, vous pouvez recevoir le magazine en PDF, parce que peut-être que chez vous, vous n'avez plus de place. Peut-être que vous aimez bien les arbres et que vous n'avez pas envie de les tuer. Peut-être que vous avez...
Un chiot qui mange tout.
Sinon, il y a toujours la même formule qu'avant. À 6,50 euros, vous avez le magazine. Et puis, pour 10 euros par mois, vous avez les deux. C'est quand même pas mal. Mais si vous êtes vraiment... des gentilles personnes, si vous voulez nous soutenir dans ces moments difficiles, si vous voulez pas qu'on finisse comme Game Informer.
Aïe, 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 chantage affectif.
Vous avez la formule à 15 euros par mois. Vous avez le magazine en papier, le magazine en numérique et des remerciements dans le podcast Vive le Pod. Eh bien, c'est maintenant. Donc, qui veut faire les remerciements? Qui a la plus belle voix? C'est Christophe.
Eh bien, merci à Blinksurf, Bourriot, Olivier, Chichounet, Fred Moreau, Gothic02, Irobir, La Mogne, Laurent Guéry, Montreuillois, Mister Burp, Olou, Papa Podcast, Quentin Lamami et Zadisik.
Et un gigantesque merci à notre Jean Tourloupe.
Et oui.
Une personne qui nous donne beaucoup trop d'argent tous les mois.
Mon meilleur ami.
Ton meilleur ami, merci à Moon.
D'ailleurs, il faut qu'on connaisse vraiment son adresse. Hein.
Oui.
Moon, parce que là, moi, j'ai reçu.
Des cartons, non
j'ai, bah, moi, j'ai reçu un gros collector là pour un jeu.
Il va falloir le trimballer.
Tu m'intéresses pas spécialement.
Ah, pour lui envoyer.
Bon, non, je vais pas lui envoyer non plus. Ah. Mais il va venir le chercher. Attends, je suis grand seigneur. Je vais pas lui envoyer par la poste alors qu'il peut venir chez moi éventuellement boire un petit café vite fait, tu vois, et repartir avec ce gros carton là qui m'encombre.
On n'est même pas sûr que cette personne habite en France, mais après tout ça lui fera un petit peu de voyage.
C'est vrai, il faut qu'on ma phrase n'allait nulle part.
Okay.
Il faut qu'on apprenne son adresse.
Voilà, on doit l'avoir quelque part.
Moon, en tout cas, j'ai des statuettes, des trucs. Enfin, vraiment, c'est un gros collecteur. C'est beau. Hein.
Il va retirer tout son argent. Ça m'envoie toute leur merde.
C'est un beau truc, hein, mais c'est encombrant, quoi.
Encore merci Moon et merci à vous tous et toutes qui nous avez écoutés.
On a un petit truc aussi
sur
Ulule
en ce moment. Pendant que vous êtes sur Ulule, bougez pas parce que en ce moment on a toujours une campagne. Évidemment, on a une campagne de réédition de notre premier hors-série. Le hors-série PlayStation.
Génération PlayStation.
PlayStation.
Wow. Magazine première PlayStation.
Qui était sorti en 2015, pas la PlayStation, hein, le hors-série. Qui est donc, qui n'est plus en vente nulle part, qui est épuisé depuis belle lurette. Il paraît que ça s'échange à prix d'or sur des sites interlopes.
J'entends ça. J'entends la rumeur.
Actuellement sur Ulule, au moment où vous écoutez cette émission, il y a la campagne qui va durer jusque tout début novembre.
C'est ça.
Donc encore un mois pour précommander ce hors-série et le recevoir directement chez vous. Donc on va le réimprimer à l'identique.
moins 2-3 pubs.
Oui, 2-3 trucs désuets.
Désuets, mais sinon le contenu sera exactement le même. Donc, sur la campagne, vous pouvez en profiter pour commander en bundle notre hors-série Game Boy qui est sorti cet été et économiser sur les frais de port, du coup, pour reprendre un abonnement, si vous voulez aussi, à tarif préférentiel. Enfin voilà, comme ça, comme on avait fait la réédition du hors-série Super Nintendo en début d'année.
Ouais.
Ça avait bien marché, donc maintenant on va essayer régulièrement de pouvoir rééditer nos anciens hors-séries.
Et à l'heure où on enregistre là ce podcast, on est aux deux tiers.
Ouais.
On attend 500 précommandes pour pouvoir lancer la fabrication. Donc sur les 500, ouais, on est à 370, quelque chose comme ça. Donc ça avance bien, il reste du temps. Mais il faut bien comprendre que si on n'atteint pas les 500,
il
n'existe pas.
Et il sera, comme le précédent, comme le hors-série Super Nintendo, il ne sera pas en kiosque. Ce sera vraiment, vous le recevez dans vos boîtes aux lettres, si vous le commandez. Et puis après, si tout marche bien, on en recevra nous, on les vendra en direct sur la boutique. Mais en tout cas, ça ne sera pas dans les kiosques.
Voilà.
On a tout dit ?
Là, je crois qu'on a fait le tour.
Ouais. Regarde, 1h55.
Très bien.
Pas mal.
Bah oui, on aime bien discuter. On est pas mal, là. Écoutez, on se retrouve le mois prochain.
Allez.
Ciao. Eh bien, au revoir.
Au revoir.